France Musique.
Qui a fait ça?
C'est moi, maître.
Et où vous croyez-vous?
À l'opéra, maître.
L'Opéra de Paris, toute une histoire. Septième épisode, on inaugure le Palais Garnier. Ils sont quasiment tous là. 14 ans qu'on l'attendait, cet opéra. Forcément, le tout Paris de la fringante 3e République s'y est donné rendez-vous. Pas question de ne pas en être. Car officiellement, ce 5 janvier 1875, on inaugure le nouvel opéra de Paris, imaginé par Charles Garnier. Alors, on arbore l'air des grands soirs. Et malgré l'hiver et le brouillard du dehors, à l'intérieur, le grand escalier n'est que soleil et chaleur. C'est un festival de diamants, de brocarts, de capes, de soieries, de mantelets, de robes à crinoline dont les couleurs ravivent encore la polychromie des marbres. Et il y en a des personnalités. Alphonse XII, roi d'Espagne et sa mère Isabelle, le bourgmestre d'Amsterdam, le roi de Hanovre, le comte et la comtesse de Paris, le duc de Chartres, le marquis de Chennevières, directeur des Beaux-Arts, le lord maire de Londres et son cortège qui a traversé la Manche avec escorte, trompette, chevaux, carrosses, des princes, des généraux, des ministres, des duchesses. Et puis bien sûr, Patrice de MacMahon, comte de MacMahon, maréchal de France, président de la République française depuis 2 ans. Et pour en être, la plupart des spectateurs ont payé cher leur place. La recette de la soirée s'élèvera à 36 282 francs. L'équivalent de 300 000 euros. Dehors, les Parisiens se sont agglutinés pour essayer d'apercevoir, sous la lumière pâle des becs de gaz, ce défilé de calèches et de toilettes. Mais pour découvrir le nouveau bâtiment, l'avenue de l'Opéra n'a pas encore été percée, il faut bien dire qu'on est un peu à l'étroit. Avec un peu de chance, on peut apercevoir aussi l'ancien rival et adversaire de l'architecte Charles Garnier, recalé au concours 15 ans plus tôt, l'incontournable Viollet-le-Duc, désormais chef du bureau des monuments historiques. Mais Charles Garnier, au fait, où est-il ? Eh bien, Charles Garnier, on a failli ne pas le voir du tout. Oui, oui, vous avez bien entendu, ce 5 janvier 1875, le ministre de l'Instruction publique a tout bonnement oublié de l'inviter. Et il a fallu que lui, l'architecte du bâtiment, débourse 120 francs, soit 1000 euros aujourd'hui, pour s'acheter une place aux secondes loges. Et le voilà assis, au fauteuil 28. Le spectacle donné pour cette inauguration, un pot-pourri d'air d'opéra, de ballet, de pages symphoniques à la mode, est applaudi du bout des doigts. Mais lui, Charles Garnier, est reçu dans la loge présidentielle, décoré séance tenante de la Légion d'honneur par MacMahon. Et lorsqu'à la fin du gala, à minuit et demi, il descend le grand escalier, lui, Charles Garnier, architecte de ce nouvel opéra de Paris, est longuement ovationné. C'est bien lui et son opéra, son grand escalier et ses foyers richement décorés, les vraies vedettes de la soirée. Charles Nuyter, dramaturge et librettiste, en consigne cette description. Du côté de la façade, après avoir monté les 10 marches du perron, franchi les grilles qui ferment les grandes baies et dépassé les doubles portes formant tambour, on se trouve dans un grand vestibule éclairé par 4 groupes de lanternes reposant sur des gaines de marbre Bered et ornées des 4 statues assises de Lully, Rameau, Gluck et Händel. 10 marches en marbre vert de Suède donnent accès à un second vestibule destiné au service du contrôle et orné de gracieux candélabres et de 8 panneaux complétés de belles plaques en marbre de Sarrancolin. Là, on voit en face de soi le grand escalier. Le spectateur a devant les yeux l'ensemble décoratif le plus élégant et le plus pittoresque que l'on puisse imaginer. Les voûtes du palier central, les colonnes qui les soutiennent, construites en pierre de l'échaillon, sont fouillées de fines arabesques, ornées d'attributs et d'ornements de toutes sortes. On voit se développer devant soi la première révolution de l'escalier, aux marches de marbre blanc de Seravezza, bordée par une balustrade en onyx, dont les balustres en marbre rouge reposent sur des socles de marbre vert de Suède. On voit de là, à travers les colonnes accouplées, scintiller le plafond en mosaïque vénitienne de l'avant-foyer, puis s'ouvrir les portes du foyer. Tout autour de la cage d'escalier s'élèvent 30 colonnes monolithes de marbre Sarrancolin, aux bases et aux chapiteaux en marbre blanc de Saint-Béat. Depuis Louis XIV, il n'y avait pas eu d'exemple d'une telle série de colonnes de cette dimension. En effet, Nuyter ne s'y est pas trompé. Par la nouveauté de sa conception, le grand escalier, c'est la pièce maîtresse de ce nouvel opéra de Paris. C'est le théâtre avant le théâtre. Sa superficie équivaut quasiment à celle de la salle. Et cela semble normal, car au XIXe siècle, on va surtout à l'opéra pour voir et pour être vu. Et puis, même si l'Empire a chuté, l'opéra de Garnier a été conçu en plein boom économique, croissance, modernisation sociale, financière, décollage industriel, montée en puissance de la bourgeoisie. À Paris, c'est aussi l'essor des grands magasins, ces cathédrales du commerce, dit Zola. Charles Garnier sait qu'avec son grand escalier, il a déjà rempli sa mission. Et c'est ainsi qu'il exprime ses visions. À chaque étage, les spectateurs, accoudés au balcon, garnissent les murs et les rendent, pour ainsi dire, vivants, pendant que d'autres montent ou descendent et ajoutent encore à la vie. Enfin, en disposant des étoffes ou des draperies tombantes, des girandoles, des candélabres ou des lustres, puis des marbres ou des fleurs, on fera de tout cet ensemble une composition somptueuse et brillante qui rappellera en nature quelques-unes des dispositions que Véronèse a fixées sur ses toiles. La lumière qui étincellera, les toilettes qui resplendiront, les figures animées et souriantes, les rencontres qui se produiront, les saluts qui s'échangeront, tout aura un air de fête et de plaisir. Et sans se rendre compte de la part qui doit revenir à l'architecte dans cet effet magique, tout le monde en jouira et tout le monde rendra ainsi, par son impression heureuse, hommage à ce grand art si puissant dans ses manifestations et si élevé dans ses résultats. La réussite de l'Opéra Garnier est telle que le directeur instaure aussitôt et avec succès des visites guidées du bâtiment. 2,50 francs, une somme qui n'est pas donnée. En comparaison, le salaire mensuel d'un ouvrier excède rarement 40 francs. Mais il lui en a fallu du temps à Charles Garnier pour venir à bout de son projet. 17 ans. 17 ans depuis la décision prise par Napoléon III au lendemain de l'attentat à la bombe qui avait failli lui coûter la vie. C'était le 14 janvier 1858, devant la salle de Pelletier, un théâtre construit à la va-vite, qui ne répondait pas aux plus élémentaires règles de sécurité. Il nous faut un nouvel opéra, plus grand, plus moderne, plus dégagé, permettant un accès sécurisé, avait dit Napoléon III. Le projet d'une future Académie impériale de musique et de danse fut aussitôt déclaré d'utilité publique et un concours international lancé. 171 concurrents se présentèrent. Étrangement, les deux favoris, Viollet-le-Duc et Rohan de Fleury, échouèrent, tandis qu'émergea le nom de Charles Garnier, architecte de 35 ans, Grand Prix de Rome, totalement inconnu. Qu'importe. Son projet rallie tous les suffrages. C'est celui qu'il faut au nouveau Paris d'Haussmann, celui qu'il faut au faste du Second Empire. le baron Haussmann, en pleine restructuration de son nouveau Paris, décide donc d'un emplacement pour ce nouveau lieu d'apparat de la haute société parisienne. Un emplacement qui ne se révélera pas des plus pratiques. Première surprise, au démarrage des travaux en 1861, dès qu'on creuse les fondations, de l'eau apparaît. L'emplacement, choisi par le baron Haussmann, est situé sur une nappe phréatique. Aussi, l'astucieux Garnier fait-il construire une immense cuve de béton qu'on remplira d'eau et dont les infrastructures pourront résister aux pressions extérieures. Pour l'exposition universelle de 1867, on dévoile à la vue des Parisiens la façade jusque-là cachée par des échafaudages. Quelle surprise ! Des polychromies de marbre qui se détachent sur la pierre blanche. On dirait un palais italien qu'on aurait outrageusement maquillé. Quelle vulgarité ! On dit même qu'un jour, l'impératrice Eugénie, regardant les plans de Garnier, lui aurait lancé « Mais qu'est-ce que c'est que ce style-là ? Ce n'est pas un style, ce n'est ni du grec, ni du Louis XV, pas même du Louis XVI. » Ce à quoi, sans se démonter, Garnier aurait répondu « Madame, c'est du Napoléon III, et vous vous plaignez. » En 1870 et 71, nouvelle difficulté. Ce sont la guerre contre la Prusse puis la Commune de Paris qui ralentissent la construction. Le pays a d'autres priorités, comme l'Hôtel-Dieu. L'asile de la souffrance s'ouvrira avant le Temple du plaisir, décide Napoléon III. Et puis, comment voulez-vous avancer la construction d'un tel monument quand on impose d'emblée une coupe budgétaire? 15 millions de francs or au lieu des 29 annoncés initialement. Bien que le nouvel opéra ait été commandé par le Second Empire et inauguré par la Troisième République, Charles Garnier a su capter comme nul autre les rituels sociaux de son époque. À l'entracte, on monte et on descend l'allée des soupirs, surnom donné au grand foyer, hommage surchargé de dorures à la galerie des glaces de Versailles ornée de peintures de Paul Baudry. 54 mètres de long, 13 de large, 18 de haut. À cela, il a ajouté des salons d'été et d'hiver, un fumoir, un glacier. Il a pris en compte l'espace, le confort, la lumière. Il a mis du marbre jaune fleuri de Campan, du granit des Vosges, de la brocatelle du Jura, du jaspe du Mont-Blanc, de l'onyx d'Algérie, de la brèche violette d'Italie, du porphyre rouge de Finlande, du granit d'Aberdeen. Bref, il a mis en scène la pierre, le stuc, les peintures, les ors, les mosaïques, les allégories, les danseuses, les bacchus, les lyres, les tirses, les colliers de perles, les grelots, les masques de théâtre. Il en aura finalement coûté 36 millions de francs or pour finir le chantier. Mais de ce décor débordant, Garnier a fabriqué une formidable machine à produire du spectacle et de la fête. Un chef-d'œuvre d'art total. La virtuosité de son architecture culmine dans la salle de spectacle, un théâtre rouge et or à l'italienne, en forme de fer à cheval, où à nouveau les chiffres impressionnent. 2156 places contre 1771 à l'ancienne salle Le Pelletier. 30 mètres de profondeur, 20 de longueur et 20 de hauteur. Certes, la salle représente peu par rapport aux 11 237 mètres carrés de superficie générale. Mais elle répond au cahier des charges, de partout on voit et de partout on est vu. Le plafond, la coupole, cette fameuse coupole vert de gris qu'on distingue du dehors, est ornée d'une œuvre du peintre Jules Le Neveu, directeur de l'Académie de France à Rome. Sur 200 mètres carrés, 24 panneaux peints directement sur une coupole en cuivre représentent les heures du jour et de la nuit. Sans oublier le lustre, de 8 tonnes, éclairé au gaz. Un lustre qui restera allumé durant le spectacle jusqu'en 1937. Et enfin, devant la scène, un rideau en trompe-l'œil, peint par Rubé et Chaperon, cache un plateau et des coulisses qui, par leur démesure et leur capacité technique, tiennent du miracle. Une véritable machine à produire de la magie à un degré jusqu'ici inimaginable. Ce qu'on trouve derrière le rideau, très simple, la plus grande scène du monde. Une scène dite à l'italienne, dotée d'une pente de 5% qui permet d'accentuer la perspective des toiles peintes en trompe-l'œil. L'illusion de profondeur et de volume des décors est totale. La scène du Palais Garnier fait 1200 mètres carrés de superficie, 48 mètres de large, 27 de profondeur. Elle compte 5 étages de dessous et mesure 60 mètres de hauteur depuis les cabestans du 5e dessous jusqu'au grill le plus élevé. L'immeuble entier de la Comédie-Française pourrait y tenir. Et puis ce plateau, comme il est étrangement fait. Lorsqu'on y regarde de plus près, on y distingue des trappes. Certaines sont larges, d'autres plus étroites. On les appelle les rues et les fausses rues, par lesquelles les décors, les toiles peintes et même les artistes pourront apparaître ou disparaître à vue, en un clin d'œil. Et si on ouvre le rideau de fer, du fond de scène, on entre dans le foyer de la danse, qui prolonge encore le plateau de près d'une quinzaine de mètres, du jamais vu. C'est la magie de l'illusion scénique, la magie de ce nouvel opéra. Et ce soir du 5 janvier 1875, on va l'inaugurer, ce plateau. Le programme de la soirée ? De quoi faire briller la troupe, l'orchestre et cette machinerie flambant neuve. Deux actes de la Juive de Halévy, puis la bénédiction des poignards tirée des Huguenots de Meyerbeer, le second acte de la Source, ballet de Léo Delibes, le tout précédé de deux ouvertures, celle de Guillaume Tell de Rossini et pour lancer les festivités, celle de la muette de Portici d'Aubert. Que des succès à la mode. Vous avez pris place dans la salle, le rideau se lève et vous assistez à la soirée d'inauguration du Palais Garnier. Nous sommes le 5 janvier 1875.
L'Opéra de Paris, toute une histoire. Jérémy Rousseau, France Musique.
Et maintenant, le programme de l'inauguration du Palais Garnier en musique.
Thank you. Thank you. Thank you. toi qui me cries, sauvez-moi de la mort qui m'attend. Je suis jeune et je tiens à la vie. Oh, mon père, épargnez votre enfant. Je suis jeune et je tiens à la vie.
Nous avons écouté des extraits de La Muette de Portici d'Aubert, de Guillaume Tell de Rossini, des Huguenots de Meyerbeer, de La Juive de Halévy et de La Source de Delibes. Références à retrouver sur francemusique.fr. C'était l'Opéra de Paris, toute une histoire. Émission préparée par Marion Guillemet. Prise de son et mixage de Jean-Michel Bernaud et Benjamin Vignal. Réalisation de Claire Lagarde. Demain, 8e épisode. Notre fantôme de l'opéra.
France Musique, c'est l'été. À réécouter sur francemusique.fr.